s'il désire faire signer un livre à Michel Rocard ou Pierre Aboukourou, il est 19h30. Je vais donc être obligé, par la mesure d'ordre, de ne pas prendre de questions, c'est ce qui m'est demandé ici, de demander à Pierre Aboukourou de faire un mot de conclusion avant que les organisateurs puissent s'exprimer et que vous puissiez ici venir voir les
organes. On prend quand même quelques minutes pour développer quelques solutions.
Je vous en prie. Je vous en prie. Je me dépêche. Donc, premièrement, on montre que la restriction, pardon, mesdames, en même temps, on a voulu être un peu complet sur le diagnostic, parce que si on n'est jamais d'accord sur le diagnostic, on ne pourra pas trouver les bonnes solutions. Donc, c'est pour ça que ça me paraît fondamental. Je retourne encore demain à l'Elysée, on va de nouveau leur montrer des graphiques. On ne plus que de faire pression. On a créé des collectifs Roosevelt, on est maintenant un peu plus de 90 villes, avec Michel Rocard, avec Edgar Morin, avec Stéphane Hessel. On a créé ce collectif il y a un an, avec le petit-fils Roosevelt, pour montrer qu'il y a des solutions. On s'est mis d'accord sur 15 solutions concrètes. Il y a un groupe de Roosevelt sur Strasbourg, vous avez le droit de le rejoindre, tout en sera nombreux à réfléchir ensemble et à agir ensemble, puis on a de chances de faire bouger nos élus. Donc les propositions concrètes, c'est d'abord éviter la récession. Parce qu'on dit que c'est scandaleux de croire un miracle de la croissance qui va revenir, mais c'est pas pour une raison pour accepter la récession dans laquelle tout le pays plonge. La récession n'est évidemment pas la solution. Donc premièrement, c'est qu'on montre, c'est un article qu'on a fait avec Michel il y a un an dans Le Monde, qui était traduit dans Le Paris ce soir dans tous les journaux européens. Est-ce qu'il est normal que quand il faut sauver les banques, on trouve 1000 milliards et qu'on en est gratos sur la table? Aux États-Unis, on a mis 1000 milliards pour les banques au taux de 0,01%. En Europe, on a mis 1020 milliards pour les banques au taux de 1%, donc gratuit, en dessous de l'inflation. Par contre, quand l'Espagne et l'Italie ont besoin de 20 milliards ou de 30 milliards, même pour financer des vieilles dettes, des dettes qui ont été contractées il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on leur demande de payer des taux d'intérêt qui sont en train de les asphyxier. Je vous rappelle que l'Italie serait à l'équilibre budgétaire si elle ne payait pas des prêts financiers aussi importants. Donc toute l'Europe du Sud est en train de plonger dans une crise gravissime et toute la zone euro tombe en récession. Une des raisons, c'est parce qu'on impose des taux d'intérêt trop importants. On montre dans notre texte que sans changer les traités européens, donc ce n'est pas au bout de 2 ans de négociation, sans changer les traités européens, donc le mois prochain, on pourrait pour l'essentiel de la dette publique, qui est la vieille dette publique, dire que, ok, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement de l'argent au pays, mais la Banque centrale pourrait prêter de l'argent à la Banque européenne d'investissement, qui le lendemain prête de l'argent à l'Espagne ou à l'Italie au taux de 1% pour ce qui concerne la vieille dette. Donc en même temps, on arrête la fuite en avant. Oui, il faut aller vers l'équilibre des finances publiques, mais on montre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on peut aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité. C'est un point fondamental. Il ne faut pas aller trop vite, mais oui, on peut aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité. Une deuxième solution, c'est de mettre en place une vraie taxe Tobin. Il y a un premier progrès qui a été fait. Là, il y a 2 semaines, il y a 11 pays d'Europe qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. C'est quand même nouveau. Et je pense ici qu'il y a des gens qui sont en attaque, qui se battent depuis 20 ans pour la taxe Tobin. Et si on leur avait dit que Angela Merkel allait se faire le porte-drapeau de la taxe Tobin, ils n'y auraient pas cru. Et bien, c'est la réalité. Merkel a dit, il y en a marre, c'est pas toujours au peuple de payer.
Donc, il faut qu'il y ait une taxe Tobin, une taxe sur les transactions financières.
Allô, oui. Et même Merkel est allé à Londres pour dire aux Anglais, votre droit de veto, vous l'oubliez. Ok, vous n'avez pas envie de rentrer dans la taxe Tobin, mais la première étape, c'est que vous vous écrasez et vous nous laissez faire. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire que les esprits évoluent. Pas assez vite, parce que la crise s'aggrave, la crise sociale, la crise politique s'aggrave. Mais quand on voit que Angela Merkel convainc d'autres dirigeants de droite de mettre en place une taxe Tobin et fait taire les Anglais sur ce sujet, ça montre que si on pousse les idées, les solutions, elles peuvent s'imposer dans le débat public puis se mettre en place concrètement. Une autre proposition qu'on fait, c'est de boycotter les entreprises qui jouent sur les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Ce n'est pas seulement un problème philosophique ou éthique. Chaque année, il manque 45 milliards en France pour le budget de l'État. 45 milliards. C'est un rapport qui a été voté par l'UMP, le PS, le Front de Gauche, les écolos. Tous les partis, droite et gauche, ont voté au Sénat après 3 mois de travail pour dire qu'au minimum, il nous manque chaque année 45 milliards parce que les entreprises font du business en France. Elles profitent de nos systèmes de santé, d'éducation, d'infrastructure, elles profitent des commandes publiques, de la préfecture, de l'hôpital. Mais au moment de payer l'impôt, ah, c'est pas de chance, la valeur ajoutée est partout du Liechtenstein. Il manque 45 milliards. Je vous rappelle, pour ordre de grandeur, que le déficit des retraites, par exemple, c'est 7 milliards. Donc, ce qu'on propose, c'est de modifier le code des marchés publics. Il n'y a pas besoin d'un accord du G20. Vous voyez, il n'y a plus aucune commande publique en France pour les entreprises qui jouent ce jeu. Et on est capable de les repérer en voyant les activités qu'ils ont dans les filiales et où est-ce qu'elles payent l'impôt ou pas payer l'impôt. Une autre façon, c'est que ça fait 10 ans qu'on a fait le premier texte avec Michel Rocard là-dessus sur la question de l'impôt européen. En fait, Jacques Delors en avait parlé avant nous. Est-ce qu'on peut continuer avec le dumping fiscal? Depuis que l'Irlande est rentrée, et l'Irlande était évidemment la bienvenue en Europe, c'est à qui va baisser le plus son impôt pour que les entreprises viennent chez lui. L'Irlande baisse son impôt pour que les entreprises viennent en Irlande. Et donc, tout le monde doit baisser l'impôt sur les bénéfices. Donc, vous voyez ce chiffre ? L'impôt sur les bénéfices était à 37% en moyenne il y a 15 ans, et puis on a baissé, on n'est plus qu'à 25%. Donc, ce qu'on voudrait, c'est créer un impôt européen.
Vous pourriez nous aider pour faire pression
devant le Parlement européen, quand il y aura la discussion sur le budget, là c'est très concret dans quelques mois. Si on continue à dire que c'est chaque pays aujourd'hui pour financer l'Europe, la politique agricole, les fonds structurels, il n'y a pas de ressources propres. Donc c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne qui envoient de l'argent chaque année. Or tous nos pays s'appuient. Donc on voit bien qu'on est dans la quadrature du cercle. Par contre, s'il y avait un impôt européen, non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les bénéfices, on pourrait avoir des ressources propres pour l'Europe, avoir un budget plus important pour l'Europe, et dire que les 20 milliards qu'aujourd'hui la France met chaque année 20 milliards pour le budget européen, ces 20 milliards, on pourrait les garder pour le budget national. C'est possible. C'est un des trucs que Roosevelt a fait dans les deux premiers mois de son arrivée au pouvoir. Parce que quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, les caisses sont vides. Parce qu'il y avait le même problème. Le Texas a tiré les entreprises en baissant son impôt. Puis c'est la Floride qui baisse son impôt, puis l'Arkansas. Et les entreprises étaient contentes, c'était du tourisme fiscal. Et puis quand la crise de 1929 éclate, il n'y a plus d'argent pour donner du boulot aux chômeurs ou pour financer les recettes. Donc Roosevelt explique à la radio toutes les semaines, Roosevelt parlait aux citoyens en comptant sur leur intelligence, et ça marchait, compter sur l'intelligence des gens à être libres par rapport au lobby financier. Roosevelt a montré que c'est possible. Et donc Roosevelt dit, mes amis, voilà la proposition que j'ai demandé au Congrès d'adopter cette semaine. Nous allons créer un impôt fédéral sur les bénéfices. Le taux d'impôt sera à 40%. Qu'on soit au Texas ou en Floride, les entreprises paieront 40% de leurs bénéfices. Les actionnaires ont grogné, pour être gentil, on va dire que pendant quelques semaines, l'actionnaire était furax, mais Roosevelt a tenu bon, il a fait voter un impôt fédéral sur les bénéfices, en disant que vous soyez au Texas ou en Floride, on prend 40% des bénéfices, Washington garde une petite partie, et puis on voit que le Texas ou la Floride en fonction de la population. Qu'est-ce qui nous empêche au niveau européen? Jacques Delors avait proposé il y a 25 ans, mais maintenant c'est urgent de créer un impôt, non pas un impôt sur les personnes, je répète, même pas un impôt sur les entreprises, mais un impôt sur les dividendes, c'est-à-dire sur les bénéfices qui ne sont pas réinvestis. Ok, ça se fait en 3 semaines. Il faut 6 mois de négociation et puis 1 an pour le mettre en place, mais si on attend toujours l'année prochaine pour lancer le débat, on n'y arrivera jamais. C'est 20 milliards de marge de manœuvre pour la France chaque année si le budget européen était financé par un impôt européen. Donc on voit qu'on peut éviter l'austérité, qu'on peut aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité. Deuxième proposition qu'on développe dans ce livre, c'est montrer que même si on rentre dans une récession, ça n'est pas forcément synonyme de chômage de masse. Beaucoup d'entre vous travaillent en Allemagne et savent que, ont des amis ou de la famille en Allemagne, et savent qu'en Allemagne, même avec une récession 2 fois plus grave que chez nous en 2009, ils ont eu 6 fois moins de nouveaux chômeurs. Ça fait quand même réfléchir, c'est pour de vrai, c'est un vrai pays qui est compétitif, et même avec une crise économique 2 fois plus grave, le chômage augmente 6 fois moins vite. Parce que les partenaires sociaux sont allés voir Merkel et ont dit le licenciement, ça doit être une exception. La règle, c'est qu'on garde tous les salariés. Et une entreprise qui perd 40% de chiffre d'affaires, au lieu de licencier 40% des gens, elle baisse le temps de travail, elle garde tous les salariés. Elle baisse les salaires et l'État maintient 95% du revenu. Le gouvernement fait un chèque pour maintenir 95% du revenu. Et ce n'est pas 2 ou 3 entreprises un peu sociales qui l'ont fait, c'est 1 500 000 salariés qui ont baissé en moyenne de 31% de leur temps de travail. On est encore même avec une crise économique dramatique, le chômage a très très peu augmenté en Allemagne, et même du coup, économiquement, la croissance est maintenue. Qu'est-ce qu'on fout en France? L'an dernier, même le chômage partiel, qui est un outil tout bête et vide, on a utilisé 5 fois moins le chômage partiel l'an dernier en France qu'en 2009. Donc, est-ce que oui ou non, on se donne les moyens d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait, et est-ce qu'on se dit que le licenciement doit être l'exception, et que la règle, c'est qu'on garde tous les salariés, qu'on garde les compétences, et que même si le salaire diminue, on maintient l'essentiel de revenus. Autre point, être au chômage n'est pas forcément dramatique. Vous avez vu plusieurs personnes qui se suicident en France, et ça devrait provoquer un électrochoc, parce qu'ils arrivent en fin de droit. Au Danemark, c'est possible, un pays compétitif, ouvert à la mondialisation, au Danemark, être au chômage n'est pas une catastrophe, parce que vous gardez 90% du salaire pendant 4 ans. Sauf pour les plus hauts revenus, c'est plafonné, mais en gros pour une semaine à tout le monde, mais il y a un vrai accompagnement. Pour l'emploi, des moyens, le nombre de chômeurs suivis par quelqu'un n'est pas trop énorme, donc tous les mois, on compte quelqu'un, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie formation, mais aussi un vrai financement du chômage, on peut garder 90% de son salaire pendant 4 ans. Donc, à travers ces idées, on voit que récession ne veut pas forcément dire tomber au chômage, être au chômage n'est pas forcément une catastrophe, on peut éviter que les chômeurs tombent en fin de droit et tombent à la pauvreté. Sur réguler la mondialisation, je n'ai pas le temps de développer, mais l'Europe est le premier client de la Chine.
cette courbe, vous la regarderez, elle est impressionnante, c'est l'évolution des coûts salariés en Chine. La Chine a augmenté ses salaires et a signé toutes les conventions sociales qu'on lui demandait, jusqu'à ce que Clinton l'autorise à rentrer dans l'OMC. Et puis, une fois qu'elle a eu le feu vert pour rentrer dans l'OMC, la Chine a baissé ses salaires par rapport à l'Europe à une stratégie de dumping social et écologique qui est dramatique. Et si on continue comme ça, et la Chine ne respecte aucune des conventions sociales qu'elle a signées. Et tant que la Chine faisait des produits bas de gamme et augmentait ses salaires, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si on continue ce dumping, et si la Chine veut concurrencer Airbus ou le TGV, notre industrie est morte dans 10 ans. Or, bonne nouvelle, l'Europe est la première puissance économique mondiale. Peut-être qu'on arrête de se flageller devant tous nos défauts, peut-être rappeler quand même les grandes différences. Nous sommes ensemble la première puissance économique mondiale et le premier partenaire de la Chine. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de négociation. Ça veut dire que serrer une puissance politique, c'est pour ça qu'avec Michel et d'autres, on se bat pour, et puisqu'en Allemagne, on dit qu'il y aura peut-être un référendum dans 2 ans sur les nouveaux traités, vous savez qu'il y a des nouveaux traités qui sont en discussion. Si les Anglais veulent prendre leur distance, c'est leur droit. Churchill avait dit qu'il fallait faire les États-Unis d'Europe et que l'Angleterre serait le meilleur allié à l'extérieur, c'est ce qu'il avait dit Churchill en 1946. Si les Anglais ne veulent pas d'une Europe politique, on ne peut pas les obliger à venir, mais ils ne peuvent pas les empêcher de faire une Europe politique. Et si on crée une Europe politique, une Europe démocratique, comme les Allemands nous l'ont proposé plusieurs fois depuis 20 ans, on a une capacité de peser, puisqu'on est la première puissance économique, et on pourrait dire à la Chine, on vous donne 3 ans ou 4 ans pour respecter les règles sociales que vous avez signées, pour respecter les règles environnementales. Donc on n'a pas envie, la Chine est une poudrière sociale en ce moment, je l'ai dit, la bulle immobilière a explosé, il y a déjà 20% de chômage, donc il ne s'agit pas de faire du protectionnisme agressif et éviteux, mais il ne s'agit pas non plus de continuer le laisser faire et d'accepter les délocalisations. Donc on a une capacité d'action, on a aussi, on dit qu'il doit bientôt finir, on a aussi au niveau européen, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, c'est cet texte qu'on a fait dans le monde avec Michel et avec Stéphane Hessel en 2003, on avait lancé l'idée d'un traité de convergence sociale au niveau européen. Et on a vu aussi bien José Bové que Jacques Delors. Je crois que c'est le premier fois que José Bové et Jacques Delors signaient le même texte. En même temps, les syndicats italiens, dont Luther Guérinec, et Romano Prodi nous l'avait reçu à Bruxelles, avec les autres groupes, qui est le premier ministre belge. Et Romano Prodi avait dit que oui, il fallait un traité de convergence sociale. Pas simplement du pipeau, du discours humaniste, mais qu'en matière monétaire, dans le traité de Maastricht, il y avait des critères de convergence pour de près, soit les déficits, soit la dette, soit l'inflation. On avait 5 critères monétaires dans le traité de Maastricht. On a tué l'inflation, on a fait la monnaie unique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même volonté en matière d'Europe sociale? Donc on proposait un traité de convergence sociale avec 5 critères sur le chômage, sur la pauvreté, sur le logement, sur l'éducation, sur l'aide aux pays du Sud. Et Romano Prodi, président de la Commission, devant toutes les caméras, avait dit qu'il fallait le faire et qu'il demandait à Giscard de mettre un traité social dans les traités européens. Ce que Giscard n'avait pas voulu parce qu'il voulait le consensus avec les Anglais. Et puis, il y a des nouveaux traités qui sont en discussion, je pense qu'il est important, avec les syndicats européens, de reprendre le combat pour un traité social européen. Investir dans le logement, je finirai par 2 idées, puis je laisserai Michel continuer, moi, pour prendre le train. Si on avait la même politique de logement qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne, les loyers seraient 50% plus faibles qu'actuellement. Et c'est possible de trouver des moyens pour financer le logement. Aux Pays-Bas, par exemple, le Fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, on l'invite pour faire du logement. Les partenaires sociaux se sont dit que les marchés financiers, c'est casse-gueule, et c'est pas vraiment utile au bien commun. Par contre, faire des logements, c'est un besoin fondamental de chaque personne et de chaque famille. Et donc, depuis 20 ans, le Fonds de réserve aux Pays-Bas, le Fonds de réserve des retraites, il est fait à du logement, et c'est rentable. Parce que tous les mois, il y a des milliers de gens qui ont un chèque pour dire « voilà mon loyer pour le mois de janvier, voilà mon loyer pour le mois de février ». Et sur 20 ans, le bilan, c'est que c'est plus rentable, même du point de vue bêtement financier, c'est plus rentable de mettre des milliards pour faire du logement, ça rapporte en moyenne 2,6%, 2,6%. Tandis qu'en France, le Fonds de l'État des retraites, il est mis sur les marchés financiers, il ne rapporte que 1,4%. Et ça, c'est peut-être par décret. On pourrait avoir un décret qui dit le mois prochain que les 34 milliards, il y a 34 milliards dans le Fonds de l'État des retraites en France, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, ils sont mis sur le logement social et les partenaires sociaux le gèrent dans chaque région, parce que les besoins ne sont pas les mêmes à Strasbourg, à Épinal et à Münster. Il faut avoir une vision plus près du terrain, mais le financement, il pourrait être assuré par les partenaires sociaux avec l'argent du Fonds de réserve des retraites. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le logement, c'est juste une blague. Dernier point, créer des emplois. Michel l'a dit, on peut créer 6 millions d'emplois au niveau européen. C'est la Commission européenne qui dit qu'on peut créer 6 millions d'emplois sans prendre sérieux la question du climat et la question de l'énergie. 6 millions d'emplois qu'on peut créer au niveau européen et ça ferait baisser la facture. Si on isolait nos bâtiments, si on gaspillait moins de chauffage, on pourrait gagner 1 000 euros par an par famille en moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver le financement. Angela Merkel a les mêmes problèmes que nous, les Allemands aussi, ont besoin d'argent pour cette transition énergétique. Ce serait le rôle de la Banque centrale, puisque le rôle fondamental de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Donc aujourd'hui, vu le niveau de chômage, il n'y a aucune inflation par les salaires. La seule inflation dangereuse, c'est le prix de la dette publique, ce que j'ai dit il y a 5 minutes, et c'est le prix du pétrole et l'inflation par rapport à l'énergie. Donc, il faut un grand plan européen, financé par la BCE ou par la GUI, et qui vient à disposition de chaque pays, de chaque région, de quoi faire ce travail. On sait que c'est rentable, surtout si on compte les créations d'emplois, donc les gens qui vont cotiser et qui vont consommer, mais il faut quelqu'un pour avancer la France, c'est l'Europe. Dernier point, la question du temps de travail. Oui, les gains de productivité sont une question fondamentale. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, qui est le grand ministre du Travail de Bill Clinton, qui dit que la réforme principale que doit faire Obama, c'est de baisser le temps de travail sans baisser les salaires pour créer des emplois. Cette courbe est impressionnante. Vous voyez qu'aux États-Unis, l'emploi industriel, c'est la tête dure, l'emploi, c'est la tête dure, mais la production industrielle faite sur le territoire est parfaitement stable. Malgré les délocalisations, parce que c'est vrai aussi en France et c'est vrai aussi en Europe, malgré les délocalisations, la production faite sur notre territoire a même augmenté jusqu'en 2008. Et pourquoi est-ce que l'emploi se casse la figure? C'est parce que grâce aux robots, grâce aux ordinateurs, on produit de plus en plus avec moins de travail. Ok, la Chine est dangereuse, mais la Chine a un excédent commercial, ça fait que 5 ans que la Chine a un excédent commercial important. Or, le chômage, ça fait 40 ans qu'il augmente dans tout notre pays, mais chez la Chine, c'est depuis 73 que le chômage augmente. Donc, on peut expliquer tous nos problèmes sociaux par l'arrivée de la Chine, qui est dangereuse depuis 5 ans. Donc, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de la productivité? Vous voyez, ça c'est la productivité du travail en France depuis 2 siècles. Vous voyez, c'est depuis l'invention de l'ordinateur, en gros, qu'on a fait des bons magistraux. La première révolution de la productivité, c'était Charlot, c'était les temps modernes. Ça avait été une révolution, ça avait été l'époque de la télé 29, mais il était encore 7 ou 8 autour de la chaîne. Tandis que la révolution qu'on vit depuis 30 ans, il y a ici des plein de gens qui travaillent en industrie, vous pouvez aller sur une chaîne de voiture, vous voyez quasiment plus de salariés. Mais c'est vrai dans tous les métiers. L'autre jour, il y avait un déménagement dans ma rue. Dans une fois, il y aurait eu 4 ou 5 postures qui avaient porté des cartons sur le dos. Maintenant, il y a une échelle électrique qui monte et qui descend. J'ai pris l'avion la semaine dernière, il n'y avait plus que 2 pilotes. On était plus, il y avait 3 pilotes ou bien 4 pilotes. Ce n'est pas des emplois qu'on a délocalisés. C'est l'ordinateur, et là, une bonne intelligence humaine, et l'ordinateur et les robots. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans tous les boulots dangereux ou répétitifs où il n'y a pas de l'intelligence ou de contact humain, on remplace l'homme et la femme par les machines. C'est plutôt une bonne nouvelle si on est capable de faire évoluer le contrat social. Or, le partage actuel est stupide. Ou bien tu travailles 0 heures par semaine, tu es au chômage et tu fais 0 heures par semaine, ou bien tu travailles plein pot à 39 heures par semaine. La durée réelle en France est toujours à 39 heures pour un temps plein. Donc, ce qu'on propose, c'est un autre partage du travail. Et bonne nouvelle, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Et quand j'ai en concret, hein, donc chez Fleury Michon, l'usine travaille 6 jours par semaine. L'usine fait de la production 6 jours par semaine. Mais chacun ne travaille que 4 jours. Et c'est valable dans une grande entreprise comme Fleury Michon ou Aminova, mais c'est aussi valable dans une auto-école à Rouen. J'ai fait un débat il y a 3 ans. Il y a un gars qui s'est levé en disant je suis patron d'une auto-école, mes salariés sont passés à 4 jours. On accueille les clients, on est ouvert 6 jours par semaine, mais chaque salarié ne fait que 4 jours. Ça m'a permis d'embaucher un moniteur en plus avec la même masse salariale. On le finance de façon souple pour ne pas augmenter la masse salariale avec une baisse des cotisations. On montre qu'il faut relancer la négociation, il faut faire le bilan des 35 heures en positif et en négatif. Et il faut surtout éviter la mesure autoritaire et relancer ce débat. Faire comprendre à tout le monde la gravité de la crise, faire comprendre au plus grand nombre que la croissance ne reviendra pas. On peut en même temps développer des nouvelles activités, une vraie politique du logement. Si on crée une vraie séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, les banques de dépôt financeraient les PME, donc ça favorise aussi le développement économique. Il n'y a aucune opposition entre développer de nouvelles activités utiles aux gens, le logement, le développement des PME, l'économie sociale et solidaire, les économies d'énergie. Il faut en même temps développer ces nouvelles activités et avoir un partage plus intelligent du travail disponible. Il faut qu'on s'arrête pas pour ouvrir ce débat. Je dois vous laisser, mais le débat continue avec Michel.